Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupri.
Bienvenue à tous au Festival de Rocamadour pour une interview qui a lieu hors les murs, cette fois-ci au château de la Traîne, au bord de la Dordogne, sur la commune de Lacave. Le duo formé par la trompettiste Lucienne Renaud-Davary et l'accordéoniste Félicien Bruce y est produit hier soir, lors de la traditionnelle soirée proposée ici depuis quelques années par le festival. Félicien Bruce a très gentiment accepté de s'entretenir avec moi avant son concert, qu'il en soit remercié. Bonjour Félicien. Ravi de vous retrouver un an après votre concert avec Thibaut Garcia, c'était ici même dans ce lieu magnifique.
Absolument, et ben je suis ravi de vous retrouver vous aussi, et puis ravi d'être à nouveau dans ce château qui est quand même assez incroyable. En bordure de Dordogne, donc moi je ne suis pas dépaysé parce que vous savez je suis né en Auvergne, aussi pas très loin de la Dordogne, à Saint-Sauve-d'Auvergne, juste après la Bourboule. Mais là on est un peu plus bas, donc sur le cours de la Dordogne, dans une région incroyable, et pour un festival magnifique, donc je suis ravi d'être là.
Et vous y revenez une fois encore en duo avec Lucienne Renaud-Davary, donc étape d'une tournée qui vous a amené encore dans de nombreux endroits en France. Avant de parler plus précisément du tandem que vous formez avec la jeune trompettiste, je voudrais évoquer votre carrière qui en quelques années a pris un essor mais incroyable, formidable. Je ne crois pas exagérer en disant que vous êtes aujourd'hui l'accordéoniste le plus demandé de France avec Richard Galliano, sans doute on parlera de lui parce que vous êtes lié à lui. Une carrière de concertiste qui a commencé de façon assez tardive finalement, puisqu'avant de vous y consacrer exclusivement, vous avez surtout privilégier votre activité d'enseignant. Qu'est-ce qui a été le déclic pour vous ? Est-ce que ça a été des rencontres, des conseils ou peut-être tout simplement une prise de conscience ?
La réponse est dans la question, puisque ce qui a été décisif, il s'appelle Richard Galliano, celui qui a été décisif. J'étais effectivement enseignant. Alors moi, il se trouve qu'au départ, j'ai pas du tout choisi de faire de la musique et de jouer de l'accordéon pour jouer de la musique classique. Comme je vous le disais, je suis né en Auvergne, j'ai été bercé par l'accordéon musette. Mes parents allaient danser dans les bals musettes, donc au départ, j'ai joué de l'accordéon pour jouer du musette et j'ai animé des bals musettes longtemps. J'ai découvert la musique classique un peu tard déjà. J'ai tout fait tard, vous voyez, dans ma vie adolescent, jeune adulte, j'ai découvert la musique classique. Ça m'a vraiment passionné immédiatement dès que j'ai découvert cet univers-là, donc j'ai commencé à travailler l'accordéon classique. Mais au départ, alors j'ai mis longtemps moi à savoir si j'allais faire de la musique mon métier. Je viens pas du tout d'une famille de musiciens, c'était pas forcément évident. Et mes parents m'ont dit d'accord, mais à condition que tu passes des diplômes, que tu sois enseignant, au moins t'auras un poste sûr, etc. Donc j'ai passé un diplôme d'état et puis j'ai enseigné pendant 5 ans au conservatoire de Libourne en Gironde et ensuite au conservatoire de Châteauroux pendant 5 ans aussi. Et c'était des belles années, j'ai adoré enseigner. Mais il se trouve que quand j'étais prof à Châteauroux, Richard Galliano, que j'admirais déjà depuis des années, que j'étais allé voir des dizaines et des dizaines de fois en concert, et passé par Châteauroux, il a accepté de faire une masterclass au conservatoire. Et c'est là qu'on s'est vraiment rencontrés. On a beaucoup échangé, beaucoup discuté. On a aussi fait de la musique ensemble, puisqu'il m'avait proposé de jouer avec lui à la fin de son concert le soir. Et il m'a dit, il faut absolument que tu partes de Châteauroux et que tu ailles faire des concerts. Trouve un quatuor à cordes et un contrebassiste, et puis je te donnerai des pièces. J'ai des pièces écrites pour cette formation. Et donc, c'est vrai que j'ai suivi son conseil. Il m'a beaucoup soutenu, beaucoup encouragé à faire ça. Et bon, il faut croire qu'il a eu raison, puisque depuis, ça fonctionne. Mais c'est vrai que j'ai démarré tout ça très tard, parce que la plupart des musiciens classiques qui font vraiment une carrière de concertiste ont souvent démarré ça, ils étaient tout jeunes. Alors bon, on a l'exemple juste à côté de moi, Lucienne, qui a démarré ça particulièrement jeune. Elle, c'était une enfant prodige de la trompette. Elle a 12 ans de moins que moi, mais elle fait carrière depuis plus longtemps que moi. Donc parfois, on s'en amuse. Et moi, c'est vrai que tout ça est arrivé à l'âge de 30 ans, donc un peu tard, ce qui parfois rend sans doute les choses un peu plus compliquées, ou en tout cas on se pose plus de questions, et en même temps ça rend les choses peut-être encore plus belles, parce que finalement on apprécie aussi peut-être encore davantage de faire ce métier qui est quand même un beau métier, très prenant mais un beau métier.
Et puis on a déjà une expérience de la vie qui je pense est précieuse aussi pour prendre du recul par rapport à tout ça et par rapport au succès qui vous est aussi tombé dessus assez rapidement. Aujourd'hui vous jouez dans combien de formations? Moi je n'arrive même pas à les dénombrer, et le nombre de musiciens avec lesquels vous vous produisez régulièrement, en dehors de Lucienne Renaud-Davary évidemment.
Beaucoup de formations. Alors c'est vrai qu'il y avait d'abord cette formation qui mêle l'accordéon au quatuor à cordes et à la contrebasse, donc on a fait un premier projet qui s'appelait le Paris des bretelles, ensuite un deuxième projet autour de Beethoven qui s'appelait Neuf, avec mes amis le quatuor Hermès et Edouard Macarès, qui sont des gens merveilleux. Et puis ensuite, les choses se sont agrégées petit à petit. J'ai rencontré des musiciens en faisant des concerts qui m'ont dit tiens, ça serait chouette qu'on joue ensemble. Donc j'ai joué beaucoup en duo avec le clarinettiste Renaud Guirousseau, puis avec le mandoliniste Julien Martineau. Et puis aujourd'hui, j'ai à nouveau encore d'autres formations avec vraiment des gens que j'adore. J'ai toujours cette formation avec le quintet à cordes, mais j'ai trois duos vraiment qui me tiennent particulièrement à cœur. Un duo avec le contrebassiste Edouard Macarès, qui est vraiment un ami très précieux, un musicien magnifique. J'ai un duo avec le guitariste Thibaut Garcia, donc avec qui j'étais là l'an passé. Pareil, c'est un ami, un musicien totalement incroyable. C'est génial de bosser avec lui. Et le duo avec Lucienne, qui est hyper précieux à mes yeux, parce que c'était un peu le duo inattendu. En fait, Lucienne, la première fois que je l'ai écoutée, elle était toute petite, elle venait faire des stages en Auvergne, donc elle devait avoir 8 ou 9 ans, et elle était déjà présentée comme une trompettiste prodige, et j'avais été bluffé. Et en fait, on s'est revu il y a 4 ans maintenant, dans un très beau festival à Royan qui s'appelle Le Violon sur le Sable, où on était programmés la même année. Et on était très stressés tous les deux avec ce concert à Royan, et on s'est croisés dans les coulisses, on a reparlé un peu de l'Auvergne, on s'est rappelé quelques semaines après en disant tiens, on pourrait jouer tous les deux ensemble, et on joue vraiment beaucoup ensemble depuis 2 ans, et c'est un grand bonheur, parce que d'abord, c'est toujours une leçon de musique de jouer avec Lucienne, une leçon de générosité avec le public, et puis c'est aussi, on passe aussi des moments très précieux, et c'est toujours chouette de voyager avec elle.
Alors justement, j'allais vous parler de ça. Je pense que cette vie itinérante de concertiste, ça vous plaît beaucoup, et de vous retrouver avec des amis, parfois même une bande d'amis, comme ce quintet que vous formez avec Thomas Enco, Thibaut Garcia encore lui, Edouard Macarez, votre grand ami, et Jordan Victoria. Vous vous êtes produit récemment au Festival de Toulouse, organisé par un autre de vos amis, Julien Martineau. Cette vie-là, je crois que c'était fait pour vous, finalement.
Je sais pas, parfois c'est un peu pesant aussi, on n'est jamais chez soi, mais c'est pour ça que c'est important de le faire avec des gens qu'on aime beaucoup. Vous parlez de ce quintet là aussi, oui, c'est vraiment des gens d'abord pour qui j'ai une admiration sans borne, et puis des gens qui me sont très chers, donc Thibaut et Edouard avec qui je travaillais déjà, Jordan Victoria qui est donc le violoniste, premier violon du Quatuor à Rhodes, et Thomas Enco qui sont eux aussi des gens qui me sont très chers, et je crois que ça c'est très important. Et d'ailleurs là, donc j'ai jusque là fait beaucoup de musique de chambre, et depuis un an je commence à travailler beaucoup avec orchestre comme soliste, et je me rends compte que la dynamique est complètement différente. Alors on a un lien bien entendu avec les musiciens de l'orchestre, avec le chef, mais un lien qui est quand même différent du groupe constitué de musique de chambre, et parfois c'est, il faut apprendre à le gérer tout ça, et donc je vais jouer beaucoup avec orchestre la saison prochaine, puisque j'ai un disque qui sort avec orchestre à l'automne, et je vais aussi jouer en solo, et ça va être à nouveau une autre étape. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué en solo, parce que je crois que j'aime profondément partager la scène avec des gens que j'aime beaucoup. Voilà, c'est très rassurant pour moi, et c'est très enrichissant.
Et puis on peut supposer, vous parliez d'enrichissement, qu'il y a une émulation qui vous fait progresser aussi, vous, dans votre art de musicien, en compagnie de ces artistes qui viennent d'horizons très différents du vôtre, le classique, le jazz aussi pour certains.
Ah oui, complètement. Ça remplace, parce que donc au bout d'un certain temps, on arrête de prendre des cours quand on est musicien. Enfin, moi je continue à en prendre un peu de temps en temps. J'ai une amie accordéoniste merveilleuse, Domier Morine, avec qui je travaille souvent quand je prépare un nouveau programme, etc. Mais je crois que ce qui remplace justement le cours que les musiciens reçoivent depuis tout jeune, chaque semaine, c'est le fait de travailler avec des gens très forts. Et alors c'est à la fois stressant, et c'est beaucoup d'angoisse, parce que quand on joue avec des gens très forts, et ben il faut pas leur faire perdre leur temps. Donc ils attendent à ce qu'on soit prêt, et puis même nous on veut être prêt, et en même temps ça apprend énormément, parce que chacun a une vision différente, a un parcours différent, et c'est pour ça qu'il faut le faire avec des gens avec qui on s'entend bien aussi, parce que je sais pas comment vous dire, mais il y a une alchimie qui a lieu et qui forcément enrichit beaucoup. Oui, c'est très intéressant,
y compris humainement sans doute. Nous allons évoquer votre duo bien sûr avec Lucienne Renaud-Dinvary dans quelques instants, mais avant cela, pour se mettre dans l'ambiance, on vous écoute avec elle dans cette interprétation de Tango pour Claude, célèbre composition de votre maître Richard Galliano, que vous avez joué hier soir au château de la Traîne.
Thank you.
Tango pour Claude, pièce composée par Richard Galliano pour Claude Nougaro, interprétée ici par Lucienne Renaud-Davary et Félicien Bru, une de vos œuvres fétiches que vous jouez souvent en concert. Alors la rencontre avec Lucienne Renaud-Davary, vous l'avez évoqué hein, il y a quelques minutes, c'était à Violon sur le Sable. Et depuis, vous avez tourné, là, vous avez fait combien de concerts là, cet été?
On a fait beaucoup de concerts, je ne sais pas exactement, mais on doit bien faire, au moins une trentaine de concerts tous les ans avec Lucienne. On voyage beaucoup et c'est très touchant et c'est parce que au départ très franchement, quand on a parlé au début de jouer ensemble, je me suis dit « Oh tiens, trompette, accordéon, ça va être un peu étrange ». Et c'est incroyable parce que je crois beaucoup à ça. Je crois que finalement, l'instrument n'est pas si important. L'instrument, c'est qu'un moyen. Par exemple, moi, je lutte beaucoup contre l'image que certains peuvent avoir de l'accordéon. Alors, certains ont une image très populaire avec un peu de dédain. D'autres, au contraire, une image beaucoup plus contemporaine d'un instrument un peu sérieux qui jouerait que de la musique atonale, difficile à écouter. Et du coup, je lutte beaucoup contre ça. Mais malgré que je lutte contre ça pour mon instrument, j'étais plein d'a priori sur la trompette, par exemple, parce que je me disais, tiens, trompette, accordéon, est-ce que ça va marcher? Est-ce que les timbres vont se marier? Et bien entendu que les timbres se marient, parce que Lucienne est une musicienne incroyable. Elle m'impressionne chaque fois de générosité avec le public. Elle a cette capacité à donner tout ce qu'elle a en elle pendant une heure et quart de concert ou une heure et demie. Et ça, c'est très fort, c'est très touchant. Et je suis persuadé que c'est aussi pour ça que le public l'adore. Chaque fois qu'on fait un concert avec Lucienne, c'est complet. Vraiment, les gens sont épatés à la fois par la musicienne qu'elle est, mais aussi par cette générosité qu'elle dégage en permanence sur scène, vraiment. Lucienne, on ne l'imagine pas faire autre chose que ce métier-là. C'est impossible.
Je crois que vous avez tous les deux cette faculté de créer une relation, une empathie avec le public. C'est pas donné à tous les musiciens, je vous le confirme. Vos programmes, comment vous les bâtissez? Alors, il y a forcément beaucoup d'arrangements, parce que des pièces originellement composées pour trompette accordéon, je ne sais même pas si ça existe. Ça doit exister, mais il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Assez peu. Au départ, on a commencé à jouer ensemble sur des pièces qu'on a un peu chopées comme ça, sans trop réfléchir. Et puis ensuite, on a fait un programme qu'on joue encore. Là, c'est les derniers concerts de ce programme. Autour d'Astor Piazzolla, parce qu'il se trouve que Lucienne a sorti un disque magnifique avec orchestre à l'occasion du centenaire Piazzolla l'an passé, et il se trouve qu'avec l'accordéon il y avait une certaine logique à aussi évoquer Astor Piazzolla. Mais alors on évoque Astor Piazzolla en jouant ses œuvres, mais pas uniquement, c'est-à-dire qu'on raconte son histoire et on se sert de son histoire pour aussi jouer des œuvres de Grieg ou de Heneux, une pièce de Bernstein pour évoquer son passage à New York, bien sûr des pièces françaises pour évoquer son passage à Paris, et puis aussi des pièces un peu de ses descendants spirituels, puisque on a de la chance, Richard Galliano nous a écrit une œuvre Aria et Variations, et on joue aussi son Tango pour Claude, vous le disiez tout à l'heure. Et il y a aussi Thierry Esquèche, qui est un compositeur qu'on adore tous les deux, qui est incroyable, et qui nous a écrit une pièce l'an passé, qui s'appelle Dopo la Folia. Donc voilà, tout ça est finalement très mélangé, parce que ça va de la valse musette au tango, en passant par de la musique de Thierry Esquèche ou de Richard Galliano, et par des œuvres finalement post-romantiques, ou en tout cas de ce courant qu'on a appelé le courant des écoles nationales à la fin du 19e. Et là, bientôt, on va avoir un nouveau programme, d'ici quelques mois, avec une création d'un jeune compositeur avec qui je travaille beaucoup, qui s'appelle Fabien Waxman, qui écrit pour la première fois pour un duo trompette et accordéon. Et ça va être un programme autour de l'amour avec une pièce assez drôle qui va faire écho aux rencontres en ligne telles qu'on les vit aujourd'hui et aux applications de rencontres. Et donc ça risque d'être un programme à la fois plein d'humour et puis très touchant, je pense. Enfin, en tout cas, la musique de Fabien, c'est de la musique qu'on adore. Et à côté, on a quelques idées de grands tubes du répertoire autour de l'amour.
Ce qui montre aussi que vous êtes bien des musiciens et des artistes de votre temps, bien dans votre époque. Il y a dans votre programme, Vent de danse, celui que vous avez joué au Château de la Traîne, un medley de valses de Paris. Ça, je pense que c'est à votre initiative. Est-ce que je me trompe?
Oui, tout à fait. Alors, d'ailleurs, à la base, c'est la pièce que je jouais en solo dans ce programme, parce que vous savez, la trompette, c'est un instrument extrêmement physique. Et Lucienne est d'ailleurs incroyable, parce que quand on fait un concert d'une heure et quart, elle prend une seule pause pendant le concert de 5 minutes. C'est très rare chez les trompettistes, parce que c'est très fatigant de jouer de la trompette. Et donc, au départ, je jouais seul, mais Lucienne a eu envie aussi de jouer une valse avec moi, donc finalement je commence seul et puis maintenant elle me rejoint sur la dernière valse, qui est une valse que j'adore d'un immense accordéoniste qui a fait une carrière incroyable, en particulier dans les années 30 et puis avant-guerre. Il s'appelait Tony Murena et c'est un des premiers avec Buzwieser à avoir écrit des valses swing absolument magnifiques, dont cette valse qui est un grand tube qui s'appelle Indifférence.
On va vous écouter une seconde fois avec Lucienne Renaud-Davary. Vous jouez un autre extrait de votre programme Vent de danse, Tonight, de Leonard Bernstein, air fameux de la comédie musicale et du film West Side Story. Thank you. Tonight de Leonard Bernstein est extrait de West Side Story, joué par Lucienne Renaud-Navary et Félicien Bru. Pour conclure cet entretien, et là c'est l'homme de radio qui va s'adresser à un autre homme de radio, vous-même. Vous produisez et animez depuis l'année dernière l'émission Brut d'accordéon sur France Musique. Comment est-elle née? Ça, j'avoue, je suis très curieux. C'est vous qui l'avez proposée ou vous avez été sollicité pour la créer?
Non, on m'a sollicité. Alors, vous savez, France Musique, c'est une station qui m'est extrêmement chère parce que quand j'ai commencé à faire ce métier, justement, il y a bientôt 6 ans, ils m'ont tout de suite beaucoup aidé. Ça a été des gens vraiment assez incroyables, que ça soit les producteurs, la direction de la chaîne, les journalistes. Et il se trouve que Marc Voinchet et Stéphane Grand, qui sont respectivement le directeur et le directeur adjoint de France Musique, depuis déjà 2-3 ans, me disent « Ah, ça serait chouette qu'on ait une émission sur l'accordéon, etc. » Bon, et comment vous dire, je fais beaucoup, beaucoup de concerts, donc j'ai beaucoup de travail, et je le disais toujours à Marc « Non, mais écoute, j'ai pas trop le temps, c'est compliqué, etc. » Bon, et puis il m'a appelé fin d'été dernier, ou début d'été dernier, en me disant « Bon, écoute, j'ai un créneau cette année, soit tu le prends, soit ça se fera pas. » Donc j'ai pas eu le choix. Et alors comment vous dire, c'est à la fois énormément de travail parce que c'est long à préparer, puis c'est un métier que je connais pas du tout, qu'il a fallu que j'apprenne cette année, que je vais continuer à apprendre d'ailleurs, mais que j'adore. Donc c'est beaucoup de travail de préparation, et en même temps c'est passionnant. Et puis c'est aussi une certaine fierté, reconnaissance pour notre instrument, parce que il y a 20 ans, je sais pas si on aurait imaginé qu'il puisse y avoir une émission d'accordéon sur une station comme France Musique. Donc c'est tout ça en même temps, c'est à la fois beaucoup de travail, beaucoup d'excitation, beaucoup d'apprentissage, parce que j'apprends beaucoup. J'ai de la chance de travailler avec des gens qui sont formidables, des réalisateurs, des attachés de production qui sont superbes et qui m'apprennent aussi ce beau métier qu'est la radio. Et je crois qu'on a besoin aussi, les musiciens classiques et le milieu de la musique classique et des arts en général, on a besoin de caisses de résonance et de médias qui parlent de ce qu'on fait, et France Musique en fait partie. Et je pense que c'est une chance, et que finalement c'est aussi, comment dire, c'est une sorte de retour finalement assez logique et assez sain que les musiciens, moi France Musique m'a beaucoup aidé, donc c'était normal aussi que je donne un peu de temps à France Musique pour leur parler de cet instrument que j'aime beaucoup.
Et pour faire ça depuis des années, je confirme que c'est beaucoup de travail de faire une émission musicale. Et puis, vous concernant, promouvoir votre instrument, son histoire, son répertoire et ses grandes figures, je pense que c'est très important pour vous. Transmettre et peut-être corriger aussi certains clichés ou lieux communs sur l'accordéon, comme vous l'évoquiez tout à l'heure.
Oui, il y en a toujours. En même temps, comme je vous le disais, je pense qu'il y en a sur tous les instruments. Et finalement, alors des fois, je me dis, il y a le pour et le contre avec cette histoire. Parce que alors, l'accordéon, c'est là le paradoxe. C'est que c'est un instrument à la fois populaire, et ça c'est une vraie chance. C'est-à-dire que si vous arrêtez un passant dans la rue, vous lui parlez d'accordéon, comme la trompette d'ailleurs. Généralement, c'est des instruments, on sait à quoi ils ressemblent, on sait à peu près quels sons ils ont. Et en même temps, c'est des instruments méconnus, parce que on connaît souvent qu'une facette de ces instruments-là, ou une ou deux facettes, mais on n'imagine pas tout ce qui est possible. Et puis l'accordéon, il a ça d'extraordinaire, c'est que comme c'est un instrument encore jeune, puisqu'il a pas encore 200 ans, c'est un des derniers instruments acoustiques inventés avec le saxophone, et on écrit encore son histoire, et de plein de manières, son répertoire, la manière de l'utiliser, son organologie, puisque la fabrication de l'accordéon est encore en évolution. Et donc du coup, on a presque la chance d'être les mains dans le cambouis et de faire en sorte que l'histoire de cet instrument s'écrive.
Et pour terminer, une nouvelle qui ravira vos admirateurs et les amoureux de l'accordéon dans la région, les Toulousains en particulier. Vous allez vous produire à Toulouse le 10 janvier prochain en duo avec votre copain, le Toulousain Thibaut Garcia, à Saint-Pierre-des-Cuisines, dans le cadre de la saison, fameuse saison, très renommée saison des Arts Renaissants. Est-ce que ce sera une première pour vous dans la Ville Rose?
Alors, ça ne sera pas une première, puisque j'y ai joué cet été pour la toute première fois. Mais j'ai mis très longtemps à aller jouer à Toulouse. Alors, on m'a dit, mais Toulouse, c'est pas facile, c'est compliqué. Et donc là, je suis hyper content, parce que j'y ai joué cet été donc pour le Festival de Toulouse, sa première édition, donc qui a été, concoctée par Julien Martineau, qui est un ami, un musicien génial. Et là, je suis ravi de retourner là-bas en duo avec Thibaut, parce que c'est chez lui, parce que Thibaut est un type extraordinaire, parce que la saison des Arts Renaissants, c'est une saison magnifique, et que je pense que c'est la première fois qu'il y a de l'accordéon dans cette saison. Donc je suis ravi de revenir à Toulouse et de jouer pour la première fois à Saint-Pierre-des-Cuisines, parce que depuis le temps que j'entends parler de cette salle mythique, je suis ravi de la découvrir.
Je vous confirme que ce sera une première pour l'accordéon dans la saison des Arts Renaissants, et que la salle de Saint-Pierre-des-Cuisines est magnifique. Merci infiniment Félicien Bru, ça a été un plaisir de m'entretenir avec vous. Vous êtes donc en concert le 10 janvier 2023 à Toulouse, à l'auditorium Saint-Pierre-des-Cuisines, avec Thibaut Garcia pour le compte de la saison des Arts Renaissants. Le festival de Rocamadour se poursuit, lui, ce soir à 21h à la Basilique Saint-Sauveur, avec un concert de l'ensemble La Sportelle. Les renseignements, la billetterie et les réservations sont en ligne sur le site du festival www.rocamadourfestival.com. Très bon après-midi à tous, à l'écoute de Radio Présence.
Festival de musique sacrée de Rocamadour, le magazine, Éric Dupris.